haut des cieux, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ceux dont le cœur lui appartient. Il entend tes prières, il connaît tes misères, les secrets de ta vie et tes malins. Il a souffert pour toi, la mort à Golgotha, et c'est pour te sauver qu'il est ressuscité. Du haut des cieux, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir. Le cœur lui appartient. Il te donne la foi et reconstruit en toi tout ce qui est détruit. Oh, donne-lui ta vie, mets ta main dans sa main, aie confiance en demain. Jésus est ton sauveur, voilà le vrai bonheur. Du haut des cieux, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ceux dont le cœur lui appartient. Du haut des cieux, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ce dont le cœur lui appartient.
Bonjour les frères et sœurs, bonjour tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, gloire à Dieu. Hier soir, nous étions, Michaud et moi, invités par Marino Manca, vous savez, notre sculpteur chéri, avec son épouse. Et on est allé manger dans un restaurant où son fils travaille comme cuisinier. C'était délicieux. Enfin, je vous donne l'adresse. C'était très bien. Et quand on est rentré, il nous a dit, on était sur le parking, il a dit, oh, ça serait bien, on va inviter toute la communauté là-bas où il a son atelier, sa ferme, tout. Et on va faire un grand méchoui, ça va être super. Alors, ça vous plaît, hein? Ça va être bien, on va faire ça un de ces jours. Ça va être sympathique. Voilà. En tout cas, on a passé une bonne soirée. C'est des gens très, très bien, très gentils. Vraiment, gloire à Dieu. Eh bien, je vous invite ce matin à lire Matthieu, chapitre 6, verset 33. Alors, il vous salue tous bien. Et voilà. Matthieu 6, 33. En ce moment, il est en train de faire un cadran solaire, c'est ça, hein? Oh, c'est de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. J'en ai envie. On changera des Rolex. Non, mais c'est très beau. C'est un travail, c'est magnifique. C'est vraiment un artiste extraordinaire. Vous êtes dans Matthieu, Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Donc, tout ce qu'il avait promis, tout ce qu'il parlait au sujet du vêtement, de la nourriture, enfin, toutes les choses nécessaires à la vie, tout ça vous sera donné par-dessus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. C'est pas qu'il fait très chaud. Je crois que c'est la dernière fois qu'on va faire du feu. Hein. Ouh, là en haut, avec les spots, en plus, vraiment, on étouffe. Je me croirais au Burkina Faso, ou au Togo, ou je sais pas où. C'est chaud. Bien. La dernière fois, je vous avais parlé sur notre devoir de rechercher d'abord le royaume de Dieu. Et ce matin, je voulais vous parler précisément de ce que c'est que de rechercher la justice de Dieu. Parce qu'il y a une différence. Et puis, ça tombe bien, avec tous les événements, tout ce qu'on voit maintenant partout, tout ce qu'on entend, avec ces guerres, avec toutes ces choses qui se précipitent, ces catastrophes naturelles et tout ça, je pense que c'est bien qu'on tombe bien avec ce texte-là. Parce qu'il y a une distinction entre rechercher le royaume de Dieu et rechercher la justice de Dieu. Bon, toutes les lois de Dieu sont justes, sont des lois de justice. Et dans son sermon sur la montagne, Jésus encourage ses élus à avoir justement faim et soif de justice depuis le début, quand on lit son sermon, et quand on devait être face à lui et qu'on l'entendait, c'était ça qui ressortait, qu'il fallait avoir faim et soif de justice. Il nous enseigne qu'on doit être prêt même à subir des persécutions à cause de la justice. Il faut se mouiller. Il ne faut pas avoir peur. Il nous enseigne, on l'a vu, à manifester une justice supérieure à celle des pharisiens et à celle des scribes. Et, les scribes d'aujourd'hui, c'est qui? Les journalistes. C'est-à-dire, nous devons manifester une justice supérieure à celle des religieux et des journalistes. Ça fait beaucoup, hein? Parce que quelle influence ils ont, ces gens? Et nous avons donc deux quêtes. La quête première, c'est la quête du royaume de Dieu. La quête numéro deux, c'est la quête de la justice de Dieu. Bon. Premièrement, il faut savoir d'une façon absolue que le royaume de Dieu n'existe que là où Jésus est reconnu comme Dieu. La terre, ce n'est pas le royaume de Dieu, hein. Il faut vraiment enlever cette idée de la tête. Beaucoup de gens disent, oui, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces horreurs. Mais Dieu n'est pas le maître de la terre. Hein? La Bible nous enseigne que c'est Jésus qui est, que c'est le diable qui est le prince de ce monde. Mais voilà, il y a un royaume de Dieu sur la terre. C'est là où se trouve le roi avec ses sujets, ceux qui le reconnaissent pour roi, ceux qui le servent comme seigneur et comme maître. Être dans le royaume de Dieu, c'est déjà jouir du salut sur la terre, déjà, actuellement, tout de suite. On n'est pas sauvé pour quand on sera mort, on est sauvé déjà maintenant. Jésus est avec nous, on est dans un royaume, il est notre forteresse, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de très précieux, de très grand, de très beau. On est là-dedans ou on n'y est pas. Si on est dedans, c'est bien. C'est ce que Jésus veut, il nous a appelés, hein, pour que nous entrions là-dedans. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus, bon, nous louons Dieu parce que nous avons été élus et nous sommes entrés dans son royaume. Maintenant, nous le considérons comme notre roi, comme notre maître. On se soumet à ses ordonnances. Être dans le royaume de Dieu, c'est une expérience personnelle. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on est dans le royaume de Dieu. C'est une expérience personnelle. Vivre dans le royaume de Dieu, c'est vivre actuellement sur la terre, au milieu de toute la confusion des terriens, au milieu de toute la corruption. Mais c'est en vivant, en manifestant la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Dans ce monde de ténèbres, être la lumière, rappelez-vous. Être le sel, rappelez-vous. Alors, qu'est-ce que ça signifie chercher le royaume de Dieu? Eh bien, ça signifie, c'est au milieu des ténèbres, allumer la lumière, c'est ça. Allumer la lumière, montrer la différence. Allumer la lumière pour que tous ceux qui sont élus, mais qui sont encore dans ce monde, puissent se joindre à nous, entrer dans le royaume, c'est-à-dire entrer dans la communauté de Jésus-Christ, dans l'église de Jésus-Christ, dans son royaume. Vous avez vu, les témoins de Jéhovah, ils appellent leur salle la salle du royaume. C'est pas mal, c'est bien, ils ont trouvé une bonne idée. Bon, elle est prise, on ne va pas la prendre, mais c'est une bonne idée. C'est propager la bonne nouvelle du salut. C'est ça. Quand on est dans le royaume de Dieu et qu'on cherche à établir le royaume de Dieu, alors on cherche à établir ce royaume, à faire entrer dans... Comme Noé qui cherchait à faire entrer les gens dans l'arche. C'était un prédicateur de justice. Alors, au sujet de la justice de Dieu. Eh bien, la justice de Dieu, c'est une extension du concept de royaume. Le royaume de Dieu dans lequel tu vis, il inclut la justice individuelle et la justice sociale dont Jésus nous parle tout au long de son sermon. Il parle de la justice sociale. Dieu désire que sa justice soit manifestée dans son royaume, ben ça c'est normal, dans son église c'est normal, mais pas seulement dans l'église, aussi dans la société tout entière. Et si vous écoutez les prophètes de la Bible, si vous lisez les prophètes de la Bible, eh bien vous allez voir qu'ils dénonçaient sans arrêt, hein, les justices sociales en Israël, tout le temps, ils dénonçaient ça. Vous prenez Amos par exemple, Amos... Il avertissait pas seulement Israël, mais aussi les nations alentours. Amos, il avertit la Syrie, la Philistie, la Tyre, Édom, Ammon, Moab. Et il leur dit de se repentir, parce que le jugement de Dieu va s'abattre sur eux à cause de leur méchanceté. Il est sans arrêt en train de les houspiller. Et c'est pourquoi je vais de nation en nation, et en particulier depuis 11 ans maintenant en Afrique, et j'enseigne à des foules de pasteurs, c'est quand même étonnant. Des foules de pasteurs se déplacent pour écouter ce message. C'est Dieu qui les conduit. À des foules de chrétiens, combien de milliers on en a vu en face à face avec Nicolas et tous ceux qui sont allés avec moi là de la communauté. Combien on en a vu, combien ont entendu ce message que le jugement de Dieu a commencé par sa propre maison, c'est-à-dire il a commencé le jugement dans l'église et ça a commencé en 1977. Tout le monde l'a entendu, ils l'ont tous entendu. Ils regardent, ils écoutent, ils entendent, ils viennent à la fin, ils disent « Oh, c'était bien, oh là, c'est fort, oh, c'est impressionnant », mais il n'y a pas grand-chose qui change. Ils disent pas, il n'y a pas grand-chose qui change, mais on voit, il n'y a pas grand-chose qui change au bout de 11 ans. Voilà quoi. Il y en a même qui disent, écoute Michel, ton message, on préférerait que... Non, fais-nous des miracles, on aime ça. Non, non, les miracles, ils servent à confirmer la prédication du porte-parole de Dieu. C'est pas là pour faire... Il n'y a pas un homme qui est envoyé pour faire des miracles, puis un autre qui est envoyé pour prêcher, puis un autre... Non. Les miracles accompagnent ceux qui apportent le message de Dieu. Alors, il doit y avoir un enseignement de ce qui est juste. Et ce qui est juste aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le jugement de Dieu a commencé, qui a commencé dans son église en 77, eh bien, c'est terminé. Le jugement, il est terminé. C'est fini maintenant. Maintenant, c'est la deuxième phase qui a commencé. C'est Dieu est en train de juger les nations. Il n'y a rien de plus juste que ça. Ça, c'est au top du moment. Je vous parle toujours de vivre au moment présent. Eh bien, dans le moment présent, maintenant, Dieu s'occupe des nations. C'est, Dieu parle aux nations. Alors, qui va écouter? Et frères et sœurs, il faut être clair. Nous sommes là pour avertir, nous sommes là pour dire, pour manifester quelque chose qui vient de Dieu. Et à la grande majorité des gens qui nous disent... Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Il faut leur répondre, ben, ça tombe bien parce que Dieu non plus ne croit plus en vous. Il y a un moment où ça va être fini. La justice, cherchez la justice de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est à la fois le Créateur, mais il est aussi le juge de tous les hommes. Et quand il dit que le jugement commence par sa maison, c'est fait, maintenant il juge les nations, et quand il en arrive à ça, ça va très vite. Alors on doit par conséquent désirer, comme lui, que la justice règne dans la société, que les hommes se réconcilient, qu'ils soient libérés de toute oppression, mais les gens qui ne veulent pas écouter Dieu, ni dans les églises, ni dans les nations, qu'est-ce que vous voulez faire? Les prophètes, est-ce qu'ils ont été écoutés? Rarement. Aujourd'hui, Jésus, c'est Apocalypse qui nous dit ça. Il n'est plus dans les églises, il est à la porte des églises et il frappe. Il est dehors, il n'est plus dedans, il est dehors. Ils l'ont mis dehors avec leurs dogmes, avec leurs scandales, avec leur incrédulité, avec leurs programmes, avec toutes ces organisations. Et ceux qui sortent de là, c'est-à-dire qui obéissent à Apocalypse 18, 4, qui nous dit « Sortez du milieu d'elle », c'est-à-dire de la religion, de la grande prostituée, de toutes ses filles, c'est-à-dire de toutes ces religions qui sont sorties de là, à ceux qui sortent maintenant, ils ont un devoir. Dieu attend de ceux qui sont sortis des religions officielles, qui sont inscrites officiellement, qui ont un nom, comme Babel, ils veulent se donner un nom, ben Dieu attend de ceux qui sont sortis de tout ça, qu'ils donnent envie de la justice divine à ceux qui sont encore dans les églises et dans les nations. Mes frères et sœurs, donnez envie aux gens, tant à ceux qui sont encore prisonniers dans les églises que ceux qui ne croient pas en Dieu, leur donnez envie de la justice divine. Qu'ils aient envie de la justice divine pour leur vie personnelle, pour leur vie familiale, pour leur vie professionnelle. Envie de la justice divine au niveau de leur nation de leur et aussi internationale. Parce que maintenant, c'est le mondialisme. Hein. Quand on disait ça dans les années 60, 70, on parlait que bientôt il allait y avoir le mondialisme. Quand les chrétiens parlaient de ça en tant que prophètes, eh bien, même dans les églises, on rigolait de nous. Et puis, dans le monde encore plus. Et puis maintenant, ben c'est là. Vous avez vu la nouvelle vision de David Wilkerson? Vous qui avez Internet là et qui ne savez pas. David Wilkerson a eu un songe le 11 février de cette année. Cherchez sur Internet, allez trouver ce songe. Écoutez, c'est ce que je vous chante depuis des mois et des mois et des mois. On dirait du copier-coller. Que la justice qui est dans votre cœur, mes frères et sœurs, déborde de votre cœur. Qu'elle déborde de votre cœur sur les églises, qu'elle déborde de votre cœur sur les nations, et qu'ils aient envie de vivre ce que vous vivez. Quelqu'un disait, mais comment veux-tu que les gens t'aiment? Tu t'aimes déjà pas toi-même. Tu n'arrives pas à te supporter toi-même, puis tu voudrais que les autres t'aiment. Vous voyez le truc, hein? Il faut aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu dois t'aimer, et si tu t'aimes, alors tu peux aimer ton prochain, mais il faut que tu prennes soin de toi. Vous voyez, c'est une perfection. Mais il faut être dans les règles justes de Jésus. Alors mes frères et sœurs, il n'y a que la nouvelle naissance qui peut rendre les gens justes. Parce que quand nous nous repentons, quand nous venons à Jésus, mais pas dehors ceux qui viennent à lui, quand nous nous repentons, alors il nous justifie, il nous purifie, il nous rend justes. Ce n'est pas qu'on est juste, qu'on fait tout parfaitement juste, mais il nous justifie, il nous purifie, il enlève le péché, tout ce qui était contre nous. Il enlève, il nous nettoie de tout ça, il nous rend justes. Et puis ensuite, il nous apprend les choses justes. Et il faut recevoir l'enseignement des choses justes pour faire les choses justes afin d'être juste. Alors c'est par la nouvelle naissance seulement qu'on y arrive. Mais quand même, il y a un certain degré de justice qui est possible dans la société de ceux qui ne connaissent pas cette bénédiction de la nouvelle naissance. Il y a quand même un certain degré de justice qui peut être établi dans cette société. Et mes frères et sœurs, le principal, évidemment, c'est que les gens entrent dans le royaume de Dieu, soient sauvés, soient nés de nouveau, soient dans l'Église, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'un enfant de Dieu est content, qu'un enfant de Dieu se réjouit de voir la justice dans sa propre nation. Un enfant de Dieu, il est content de voir la justice plutôt que l'injustice. Un enfant de Dieu, il se réjouit de voir une population libre plutôt qu'une population opprimée, persécutée. Un enfant de Dieu, il se réjouit quand la paix règne dans les nations, dans sa nation, plutôt que la guerre. Hein? Alors vous voyez, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça couvre tout ça. C'est un plan immense. Faire connaître l'évangile qui a été rétabli par Jésus-Christ. Faire la promotion d'une vie qui reflète la justice de Dieu dans la société. C'est tout un programme. Et c'est nous qui devons le faire. Nous, les chrétiens, nous, les gens nés de nouveau, et qui sommes sortis, qui sont hors âge, qui ne sont plus dans les sept âges de l'Église, qui commencent par Éphèse, qui finit par la Odyssée. On est sortis. Et notre programme, c'est de faire connaître le salut en Jésus-Christ et de faire connaître, de faire la promotion de la vie qui reflète la justice de Dieu dans la société. C'est exactement ce que Jésus veut. Comme je vous disais tout à l'heure, vous regardez ce qu'il enseigne au sujet de « Soyez la lumière du monde, hein, vous êtes le sel de la terre, vous voyez, pour la société. » L'Église, il y a une influence terrible de l'Église sur le monde. Maintenant, de moins en moins, parce que les gens sont de moins en moins croyants, mais on est quand même dans une civilisation qu'on appelle judéo-chrétienne. Il y a eu une grande influence quand même, malgré tout, malgré les horreurs qui se sont passées. Et nous arrivons maintenant au bout de l'histoire. On arrive au bout de l'histoire et à ces foules qui ont entendu le message, à ces foules qui ont vu les miracles et qui disent encore « Nous ne croyons pas en Dieu », eh bien l'esprit de prophétie dit « Ça tombe bien parce que Dieu non plus ne croit pas en toi. » Il faut... Ça va arriver qu'un jour Dieu va le leur dire en face. Et il nous mandate pour aller le leur dire afin qu'ils se ressaisissent, qu'ils se disent « Waouh ! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on me dit là ?» Il faut leur faire comprendre que Dieu, il en a marre. Quand il a regardé la terre et qu'il a vu ce qui se passait du temps de Noé, il a dit « C'est fini, je ne veux plus de ça. » Il en est au même point. La Bible nous dit qu'il arrivera à la fin comme au temps de Noé. Dieu en a marre. Ça tombe bien, dit le Seigneur, parce que moi non plus, je ne crois plus en vous. Donc, et ça va dégager. Et ça vient rapidement. Lisez la prophétie de David Wilkerson. Lisez. La justice sur la maison de Dieu et aujourd'hui sur les nations, et le verdict va tomber rapidement. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu se propage par l'évangile annoncé, inlassablement entendu, par l'évangile lu, par l'évangile reçu et mis en pratique. La justice de Dieu se répand aussi par la prédication de l'évangile, de la bonne nouvelle qui change les cœurs de ceux qui reçoivent. La justice de Dieu s'établit comme ça. Elle se répand aussi par les actions sociales, humanitaires, qui visent à faire passer les exigences de Dieu. Hier soir encore, je parlais avec Michou, on parlait à ce couple et au restaurant, et il nous posait des questions sur notre association. On était obligés de faire une petite association pour pouvoir contrôler, parce qu'il y a une telle corruption, les gens n'ont plus la crainte de Dieu, n'ont plus le respect de rien. Ils se servent au passage, c'est quelque chose de terrible. Et on était obligés de se limiter. Et heureusement qu'on a Nicolas Savadogo qui est honnête là-bas au Burkina, parce que sinon l'argent... Mais il y a tellement de... Ils n'ont pas honte de voler des serviteurs de Dieu, ça ne les gêne pas du tout. Même des gens de la douane nous ont volé. Un jour, Michou passe à la douane, à Roissy. Elle s'est fait voler. Combien il y avait qu'on a porté pour des enfants là-bas. On a dit, Seigneur, tu ne peux pas laisser ça comme ça. On a prié. Je suis sûr que d'autres ont prié aussi. Et la justice est accomplie. 2-3 mois après, ces douaniers-là étaient en prison. On n'a pas porté plainte, on n'a rien fait. On en a parlé à notre Dieu. On a un pouvoir. Il faut l'exercer. Il faut leur montrer qu'il y en a marre. Et on agit avec sagesse, c'est-à-dire c'est petit, mais c'est efficace. Vous avez vu, quand on opère au laser, c'est efficace. C'est un tout petit rayon, mais c'est efficace. Alors, quelle est votre ambition? Quelle est ton ambition, mon frère, ma sœur? Moi, quand j'étais un enfant, je voulais être Charlie Chaplin. Et puis un jour, on était à Vevey, à la Migros, avec mes parents. La Migros, c'est l'équivalent de quoi? Je sais, on peut dire. C'est un grand magasin, c'est l'équivalent de Carrefour, si vous voulez, à peu près, hein, en mieux. Parce que c'est des chrétiens qui ont monté ce truc-là, la Migros. Ils ne vendent pas d'alcool, hein, c'est marrant, hein, c'est suisse, quoi. Bon, donc on était à la Migros, on faisait les courses, puis en sortant, je vois un vieux monsieur comme ça qui marchait avec sa canne, les cheveux tout blancs. Et mon père, il dit, regarde, c'est Charlot. Non. Il dit, si, c'est Charlot. C'était Charlie Chaplin, parce que Charlie Chaplin, il habitait juste dans les hauteurs de Vevey, tout près de Vevey, là où on faisait nos courses. Et de temps en temps, on pouvait le croiser comme ça, en ville, Charlie Chaplin. Oh, je dis non, je ne veux pas venir Charlie Chaplin, parce que alors, en devenant vieux, je vais venir comme ça. Non, je ne veux plus être Charlie Chaplin. Eh bien, je suis en train de prendre la voix, hein, j'ai déjà le ventre et puis les cheveux blancs aussi. Bientôt, je vais me courber un peu, puis je vais prendre une canne, puis je vais marcher comme Charlot. Qu'est-ce que c'était mon ambition? D'être comme Charlot. Je voulais être Charlot. Puis après, je voulais être cow-boy. Puis après, j'ai appris que cow-boy, ça voulait dire garçon-vache. Non, pas être un garçon-vache, non. C'est quoi ça? Moi, je croyais que les cow-boys, enfin, c'était noble. Puis oh, là, j'apprends, non, c'est la même chose que le vacher qui habite à côté de chez moi. Non, je veux pas ça. Enfin, vous voyez, on a des ambitions, puis on change et tout. Et vous, qu'est-ce que vous vouliez être quand vous étiez enfant? Vous vouliez être quoi? Vous vouliez être qui? Et les adultes d'aujourd'hui veulent quoi? Que veulent-ils? Être riche, être célèbre, passer à la télé, avoir du pouvoir, qu'est-ce qu'ils veulent? Un disciple de Jésus-Christ n'a pas le choix. On revient de nouveau à l'idée. Il n'a pas le choix. Nous avons déjà choisi dans les lieux célestes, avant notre vie, avant de venir sur la terre, dans notre vie prémortelle, nous avons déjà choisi de venir ici pour faire la volonté de Dieu. Et nous n'avons pas le choix, nous la faisons. Un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, il ne peut avoir que l'ambition pour Dieu. Que l'ambition pour Dieu. Alors, votre piété est-elle centrée sur vous-même ou sur Dieu? C'est ça la question. Mes frères et sœurs, pour être digne de Dieu, votre ambition pour lui ne doit pas être modeste. Dieu est un grand Dieu. Dieu est vraiment roi. Un disciple de Jésus ne peut que désirer voir la gloire, l'honneur de Dieu, être reconnu. C'est ça qu'un disciple de Jésus veut. Un disciple de Jésus, il met toute son ambition à étendre le royaume de Dieu, que ça soit vu, que ça soit connu. Tiens, je reviens à ma conversation hier soir. Hier soir, les gens nous ont parlé, là où on était au restaurant, donc. Et puis on parlait, ah oui, vous avez vu l'église évangélique dans telle et telle, ils ont cité une église évangélique dans une ville, pas loin de chez eux.
Mais comme c'est minable, c'est tout. Ça, on dirait une salle des fêtes, c'est affreux, c'est pas beau. Ben oui, parce que eux, vous voyez, comme ils sont catholiques, ils pensent une église, ça va être. Voilà. Je me suis dit, waouh, ils sont encore pas venus chez nous. Chez nous, à l'intérieur, c'est joli, mais dehors, il faudra vraiment qu'on fasse un effort. C'est vrai. C'est vrai, mes frères et sœurs. Il faut donner envie, il faut que les gens disent, waouh, c'est magnifique. Et pas seulement l'apparence, mais tout aussi, il faut que ça soit magnifique. Vous êtes d'accord? Amen. Un disciple de Jésus met toute son ambition à étendre le royaume de Dieu dans tous les domaines. Et c'est seulement si vous êtes dans ce cadre-là que la promesse, toutes choses vous seront données par-dessus, sera votre héritage. Pas autrement. Toutes choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas une promesse faite au hasard. Rappelez-vous l'Urim et le Thummim. Je vous avais prêché là-dessus. Il y a les paroles et les commandements. Si vous n'aimez que les paroles mais pas les commandements, ça ne marche pas. Dieu n'est pas tenu de mettre à votre disposition toutes ses promesses et de tenir toutes ses promesses et toutes les paroles qu'il a prononcées sur vous, si vous ne faites pas ce qu'il a dit que vous devez faire. Donc, ce qui est attaché à toutes choses vous seront données par-dessus, c'est attaché à ceux qui ont l'ambition de répandre le royaume et la justice de Dieu dans leur vie, dans l'Église et dans la société. C'est tout un programme. Alors, bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir d'ambition personnelle. On en a des ambitions personnelles, c'est normal. Mais ces ambitions-là doivent être soumises à notre ambition de voir le royaume et la justice de Dieu établis dans l'Église et dans la société. Notre ambition personnelle et notre ambition pour Dieu, ça doit pas être en concurrence. Ça doit être quelque chose qui marche en harmonie. C'est comme je dis toujours, la petite histoire fait la grande histoire. Eh bien, nos petites ambitions personnelles de faire ceci, de faire cela, ça doit être toujours dans un but, dans le but élevé des choses de Dieu. Il faut que vous soyez personnellement le meilleur dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites, avec les capacités que vous avez. Les capacités que vous avez, vous devez les cultiver pour qu'elles deviennent meilleures. Pour rendre gloire à Dieu au travers de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Les talents que vous avez, vous devez les faire valoir pour que ça fasse envie aux autres, qu'ils se disent « Waouh, qu'est-ce qu'il y a chez ces gens, c'est spécial. Moi, j'ai envie de ça. » Je me rappelle Paillon, quand il enseignait et en Suisse, il faisait toujours « Alors, le Seigneur m'a sauvé, maintenant j'ai la paix, la joie, le bonheur. Et si vous êtes jaloux, vous n'avez qu'à faire comme moi. » Voilà, si vous êtes jaloux, vous n'avez qu'à faire comme moi. Il faut qu'il soit saisi d'une sainte jalousie en voyant comment notre vie, elle est bien, elle est juste, elle est réglée, elle est super. Alors, utilisez vos projets comme des moyens pour que vienne le royaume et la justice de Dieu. En vous, dans l'Église et dans les nations. Et puis, le gros truc, comme dit Raphaël, ne vous découragez pas. Un jour, le diable était sur le marché et vendait toutes sortes d'objets. Alors, il vendait l'adultère, il vendait le mensonge, il vendait le meurtre, il vendait toutes sortes de trucs. Et puis, quelqu'un qui passe, il dit « C'est quoi ça là-haut ? » ?»« Ah non, ça je ne vends pas, » il dit le diable. « Ah bon, mais qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ah, c'est une arme, je la garde pour moi. » »« Ah bon, mais qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je la veux. » »« Non, non, je ne la vends pas, elle n'est pas à vendre. » »« Mais c'est quoi ?» Et le diable lui répond « C'est le découragement. » »« Avec le découragement, je les ai tous. » Et voyez-vous, des fois, quand on voit que on prêche, on prie pour les malades, il y a des guérisons, on prêche, on voit des choses qui se produisent et tout, et puis on repasse une année après, puis on voit que les gens sont toujours dans la même condition, c'est toujours les magouilles, c'est toujours les machins. On pourrait, au bout d'un moment, se décourager. Moi, j'ai passé par une phase de découragement, de dire, ça ne sert à rien, après tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? De toute façon, ça ne changera rien. J'en ai fait des efforts de me battre, mais pourquoi ça? Tout le monde s'en fout. Eh ben non. Comme disait non pas Raphaël, ni Paillon, ni David Wilkerson, mais comme disait Eddie Mitchell, s'il ne reste qu'un, je serai celui-là. Non ? C'est ça qu'on doit dire. S'il ne reste qu'un, je serai celui-là. Et je ne vais pas me décourager. Et vous ne m'aurez pas, vous qui essayez de me décourager. Vous ne m'aurez pas. Ah, ça, c'est Johnny Hallyday qui dit, vous n'aurez pas ma peau. Vous n'aurez pas ma peau. Souvenez-vous toujours que, comme au temps de Noé, il n'y en aura que très peu qui vont rentrer dans l'arche. Faut le faire. Il faut aller chercher les gens pour qu'ils entrent dans l'arche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus pour cette prédication. Merci mon Dieu de nous aider à nous régler afin que nous fassions ta volonté et que nous puissions être le jour où tu reviendras nous chercher, être accueillis à bras ouverts par toi et que nous puissions entendre ces paroles. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Amen. Amen.